Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Et 17h03, on y revient, on mastique, on est le 8 mai, bien entendu, avec Jérôme Pinault, Éric Dimeco, Adrien Gouin, mon petit Pierrot, dans demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Alors, dans une demi-heure, un peu moins d'une demi-heure, une grosse vingtaine de minutes, nous allons parler vélo, c'est le départ du Giro, le Tour d'Italie aujourd'hui.
Bien sûr.
Grand favori, Jonas Vingegaard. Mais qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui de compléter les trois grands tours? Est-ce que le prestige est réel, Vincent? On va en parler dans le cri de gueule.
Est-ce qu'on aura Madiot? On aura un mec qui s'y connaît un peu en vélo.
On va appeler Marc, si tu veux.
Jean Popel aussi.
Ou sinon, on fait venir Christophe Cessieux.
Ouais, ou Christophe Cessieux, qui est quelqu'un de
Jean Stirino.
Ouais, qui connaît bien aussi.
Ouais.
Faut pas appeler Pinot, ça c'est sûr, il connaît rien. Comment il s'appelle le mec qui est favori du Giro là? Le Danois?
Le Danois. Vingegaard.
Allez, hop, garde. Jérôme, il se prend au jus, il est aussi vicieux que nous.
Parce qu'il m'attaque, depuis tout à l'heure il m'attaque. Donc là, il faut. Appelle le Vingo.
Donc le cyclisme à 17h30, ensuite le Kikadi pour gagner votre semaine de vacances en pension complète pour 4 personnes dans un village club Milléade, Kikadi par SMS.
Allez.
Au 7-32-16.
Vous êtes fan, je sais. Il y aura une charade de Frédéric Pouilly.
Non.
Ah, excellent.
Pas exagéré, ce vendredi avant de partir en week-end.
Vu que j'ai rien compris.
Il va y avoir des accidents sur la route.
Ce qu'il m'a dit de toute la journée, je vous jure que c'est vrai. Je suis très, très inquiet.
J'ai assisté à une scène.
Il a besoin de vacances.
Il part en vacances.
Il y a Frédéric Pouilly qui nous envoie un mail. Au bureau, on s'envoie des mails. C'est le travail. Voilà. Mail pas non plus.
Non.
De la plus haute importance.
Réaction de Pierre Dorian qui a levé la tête. Je fais, tu m'emmerdes. Il a dit ça à Frédéric Pouilly, fort dans l'open space. Voilà. Oh là, c'est l'état de tension. Il y a une tension là.
On sent que c'est la fin. Ça va finir. Tu vois, Mini Valverde.
Il va y avoir.
Ça part en vacances. Là, je sens de la fin de saison. Tu vois, les mecs. Tu vois, quand ça joue la Champions League, les mecs devraient avoir la banane.
Allez, tout de suite, Didier Deschamps pourrait tout changer au Real Madrid.
Ça sent l'orage à Madrid, mais ce n'est pas surprenant.
Son club, le Real Madrid.
La rencontre contre Barcelone est toujours un événement.
Une autre compétition. Élimination directe.
La rivalité va bien au-delà de la simple confrontation sportive.
Vous êtes obligé de mobiliser deux policiers pour chaque personne.
C'est le résumé saisissant de l'histoire de l'Espagne contemporaine.
Pas spécifique comment le football.
Le résumé d'un siècle d'antagonisme culturel.
Et c'est une rivalité saine et sportive.
Idéologique et politique.
Ah, car la vie est difficile, le quotidien est très difficile pour certains d'entre eux.
Pérez a un objectif, faire du Real le plus grand club du monde.
Étape de Césarie, numéro 1, c'était ça.
À l'issue de la saison 2000-2001,
aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'il y a,
le Real Madrid est champion d'Espagne.
J'ai toujours besoin du terrain, de cette adrénaline.
RMC, le gros débat du Super Moscato Show.
C'est que Eric, c'est quand même. Déconner, c'est... Non, mais Eric, quand même.
Bon, allez.
Moi,
ça me fait pas rire,
quelque
chose, c'est tout, c'est pas grave. Hein.
Ouais, je voudrais qu'il vienne nous voir après son mandat et tout.
Quelqu'un de neutre qui n'est pas attaché affectivement à Didier Deschamps et qui ne connaît pas tout ça depuis aussi longtemps que nous. Jérôme, est-ce que ça te fait rire, oui ou non?
Ah oui, mais moi, je suis mort de rire. Moi, bon, la préférée, c'est cette année quand il est avec la journaliste espagnole, hispanique, et qu'il a essayé de chanter. Là.
Ah ouais, mais
il va tout seul. C'est
difficile, là.
Il a bien aimé la dame.
On allez, c'est le feu au Real et on accueille notre correspondant à Madrid, Edgar Grollo.
Salut Pierrot, salut Vincent. Ça va, tu me fais pas la gueule, Vincent.
Ah, ça va, t'étais moyen. T'étais moyen la dernière fois. Jamais tu fais ça, je veux te dire. Tu peux te retrouver à supporter, à être à Nantes.
On m'a dit que mon contrat avait pas été rompu encore.
Ça va.
Tout va bien, on te protégera de toute façon. Dimanche, il y a le Classico Barça-Real dans une semaine incroyable puisqu'il y a eu cette bagarre entre Valverde et Tchouaméni. Ensuite, on passera à la saison prochaine avec un autre coach, probablement un renouvellement de l'effectif. Avec ou sans Vinicius, la question sera peut-être posée. Avec quel coach, on ne sait pas d'ailleurs, hein, c'est toujours assez flou. D'où la question, qui peut remettre de l'ordre au Real Madrid 32-16. Donc, fais-nous le point sur tous les chantiers à court terme, Edgar.
Alors, accrochez-vous, il y en a beaucoup. D'abord, quelles sanctions pour Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni? On verra à la fin de la procédure disciplinaire qui est en cours. Ensuite, au niveau de l'effectif, on peut s'attendre à un grand ménage, déjà parce que il y en a besoin au niveau sportif, hein. Il manque de la qualité en défense, il manque de la complémentarité au milieu et en attaque. La prolongation de Vinicius, d'ailleurs, tarde à venir et ça va être l'un des feuilletons. Et puis, il y a des joueurs qui arrivent en fin de contrat, Alaba, Carvajal, Rudiger. Ça, c'est pour le sportif. Le problème, c'est que cet effectif, il est divisé, il y a des clans, des joueurs qui ne s'entendent plus, et le Real Madrid va devoir prendre des décisions fortes pour mettre de l'ordre dans tout ça. Ça passera peut-être par le coach. Alvaro Arbeloa, il est condamné. Le Real va chercher un profil d'expérience, peut-être José Mourinho, pour taper du poing sur la table. C'est le favori aujourd'hui, hein. Peut-être Jürgen Klopp, s'il a envie d'entraîner à nouveau. Et pourquoi pas Didier Deschamps, qui a beaucoup d'expérience dans la gestion des stars. Et puis, pour terminer, la dernière interrogation, Vincent, c'est de savoir s'il y aura du mouvement au niveau de la direction, puisque la direction est très critiquée en Espagne.
Bon, alors, parfait. Reste avec nous, Edgar, parce qu'il y a peut-être des petites choses qu'on mettra en place.
Vincent, parfois.
Vincent.
Alors, Edgar, n'hésite pas.
Alors, il y a deux choses.
Vinicius, alors, il reste ou pas?
Il y a deux choses dans ce débat. C'est quelle pourrait être la nouvelle autorité, hein, quel entraîneur pourrait incarner cette autorité. Mais il y a aussi le court terme. Qu'est-ce qui pourrait remettre de l'ordre dans ce Real? Il y a un match quand même, il y a un classico dimanche. Hein.
Combien reste de matchs, selon tout?
Il en reste combien, Edgar?
Tu vas pas virer
35, ça doit être 4, ça doit être.
4 journées, ouais, 4
journées. Tu finis, écoute-moi, tu finis, tu dis rien, et voilà. Et
tu vires à Valverde?
Non, tu le vires pas, tu le mets, t'as une explication avec les deux mecs, et je sais pas la tension qu'il peut y avoir, on n'est pas à l'intérieur, on ne peut pas mesurer, ça dépend de l'intensité qu'il y a eu. Peut-être qu'ils se sont excusés, peut-être que l'entraîneur, ils vont les faire péter, le prochain match, ils vont pas jouer. Ils vont être suspendus, ils vont tout prendre, je pense, une sanction financière aussi, mais tu peux pas virer, tu essaies d'aller t'avancer.
Sauf s'il y a un souci avec Valverde.
C'est possible que Tchouaméni joue le
Tchouaméni va jouer, peut-être que l'autre ne jouera pas, et puis voilà, après on se...
Valverde, il est au repos parce qu'il y a un traumatisme.
Il y en a une des deux qui va péter, automatiquement. Celui qui va être pris pour le fautif, celui qui a été le plus brutal, le plus fautif et tout ça, Valverde,
je pense pas que ce soit.
Ils vont pas jouer ensemble.
Edgar, mais je pense pas que ce soit celui qui est considéré comme fautif qui morflera. C'est celui qui sera considéré comme un problème pour le vestiaire, non?
Oui, mais n'oublions pas une chose très importante.
Fautif, c'est ça, Pierrot.
Valverde, il est vice-capitaine du Real Madrid. Donc ça peut aussi être pris en compte par la direction en disant on a donné le brassard à un gars qui se bat avec quelqu'un dans le vestiaire.
Voilà, ils vont juger à l'intérieur du groupe sans rien changer, en laissant l'entraîneur, et voilà, c'est la police, ils vont faire la police tout simplement. C'est quand même assez simple, c'est pas très difficile de faire la police dans un groupe quand même. Ouais. Tu prends les deux mecs, pam, tu les fais péter les deux prochains matchs. Et puis voilà, ou le prochain match où Valverde il joue, tu fais péter Tchouaméni, ou le contraire, tu marques ton coup d'abord financièrement, et après tu leur dis c'est comme ça, il y a pas d'arrangement.
Tu peux en plus qu'il y a de la marge au classement, ils ont et pour assez de points d'avance pour pas que ça leur chauffe.
Pour l'après, c'est parti. Mourinho, c'est une bonne idée?
Non,
ça, moi, je trouve ça dingue qu'on rappelle Mourinho.
Mais Mourinho, je comprends que le Real Madrid.
Pour remettre de l'ordre.
Je comprends, parce que c'est n'importe quoi. Mourinho, il est plus invité. À un moment donné, ils ont eu Ancelotti qui, je vous l'avais dit, vous rigoliez, qui était un peu sur la fin. Alors que c'est un mec admirable. Il est au Brésil, il est sélectionneur. Et je pense qu'à un certain moment, être sélectionneur, c'est quand même mieux que d'être tous les jours de 6h du matin, 7h du matin,
à 22h,
de prendre la tête, à 22h au club, et d'être entraîneur de club sur tous ces clubs-là. C'est un enfer. La preuve, à la Valverde, Tchouaméni, c'est une horreur à gérer tout ça. Donc là, tu finis les 4 matchs, tu vires ton entraîneur, mais tu prends pas Mourinho. Il est râpé, Mourinho. Mourinho, tu te rends compte que tout le monde vante qu'il a gagné plus d'argent
en indemnité de départ
que c'est quand même, il y a une raison. C'est que le mec est viré à chaque voyage. Tu vas te faire revoir Perron, et je me jetterai pas dans la gueule du loup. Et donc automatiquement, il y a quand même une raison. Le mec ne gagne plus rien. Enfin, il a gagné encore. Vous allez me sortir. Il a dû gagner la coupe de machin. Il y a toujours un truc à gagner. De toute façon, comme il est quand même en général dans des clubs à peu près qui tiennent un peu la route. Donc il y a toujours un truc.
Il y a le record du monde de Mourinho. Il a dépassé les 100 millions d'indemnités de départ. 108.
T'oublies. Tu mets un mec frais. Regarde Vincent Compagnie. C'est quand même bien, quoi. Tu vois, je veux te dire, il faut trouver des mecs comme ça. Maintenant, il y a une relève qui s'est fait. Mourinho, il a eu son temps. Il a été brillantissime. Ancelotti aussi. Maintenant, il te faut aller. Allez.
Ils sont allés chercher en début de saison.
Didier Deschamps.
Tu vois, alors je sais pas. Ouais, peut-être que ouais, ça pas fait un moment.
Il est parapé, Didier.
Non, il est parapé parce que surtout, il y a longtemps qu'il n'entraîne plus en club. Donc, il est frais. Parce que c'est un crève bonhomme, hein, d'entraîner en club. Attention. Hein.
Ça peut être la personne qui peut remettre un peu le vestiaire au carré, qui sait gérer les stars, puisqu'il gère déjà Kylian Mbappé et toute l'équipe de France toute l'année. Après, c'est aussi la problématique du prochain entraîneur. Est-ce que ça suffira? Est-ce qu'il n'y a pas plus profond? Je ne sais pas ce qui se passe dans ce club, mais on n'avait jamais trop parlé de ces problématiques internes au Real Madrid.
Ça faisait longtemps, mais arrivé dans le passé.
Dans le jeu, oui, y a, ça fait un moment que ça pétarade, mais par contre, des prises de bec comme ça, c'est plus profond que ça.
Après, c'est pas Hiroshima non plus. Des mecs qui se battent dans les vestiaires, enfin, dans tous les sports collectifs, c'est tous les ans. Et le Real Madrid, on en parle parce que ça marche pas trop.
Ouais,
même quand ça marche, c'est des mecs qui sont pris la tête. Edgar, même quand ça marchait avec les Benzema et compagnie. Mais écoute-moi, je suis persuadé qu'il y a eu des tartes parfois qui sont partis à l'entraînement. Parce que le football, quand tu fais opposition, il y en a toujours un qui te fait mal à une chemille, qui joue jamais, qui fait 3 matchs par an, et que voilà, et puis, ou même un mec que tu peux pas voir, parce que quand t'es 30 ou 40 toute l'année, bien entendu, il y en a certains, tu leur parles pas. Tu n'as aucune affinité avec.
Non, Vincent a raison sur une chose. Effectivement, il y a très souvent et toujours et dans tous les sports des tensions dans des vestiaires, ça peut arriver. Par contre, là, il y a quelque chose à ne pas oublier. Il y a quand même un joueur qui est allé à l'hôpital et qui a un traumatisme crânien.
Mais il est tombé.
Et ça, c'est pas du tout anodin.
Mais
c'est normal que ça prenne plus d'ampleur aussi.
Ouais.
Parce que il a un repos imposé de 10 à 14 jours.
Mais
c'est pas rien. Il a perdu connaissance.
Je vais te le dire, moi, si c'est du cinéma ou pas. Combien de points de suture sur le cuir chevelu? Parce que là, vos drames, je le connais. Les histoires, maintenant tout le monde fait tout le monde tombe à la renverse. Écoute-moi, je te dis que le geste il est pas beau, c'est pas bien de se battre, il n'y a pas de souci, mais il n'est pas entre la vie et la mort.
Il
n'y
a pas tort, Edgar, voilà. Selon les conséquences de la même bagarre, évidemment, l'ampleur des tensions n'est pas la même. Tout simplement, c'est-à-dire que s'ils se chauffent et puis que voilà, ils repartent chacun chez eux et tout va bien, s'il y en a un qui finit à l'hôpital, c'est pas tout à fait pareil.
Il y a les vacances d'Mbappé, la blessure mal gérée, les joueurs qui se disent plus bonjour, qui se parlent plus. C'est un vrai dossier là.
Il a fini à l'hôpital pour se faire un coup, donc il n'y a pas mort.
Non, il avait perdu connaissance.
Il a perdu connaissance, ouais.
Mais des connards.
Avec
les marines,
il est sensible à la piqûre, il est tombé à la
barre. Il a perdu connaissance, il s'est cassé, il avait 25 ans sur le carrelage. Est-ce qu'il avait déjà connaissance avant? Non mais voilà, c'est ça.
17h15.
Fred, tu m'as coupé de la tienne, Fred ?
Non, vas-y. Oh, j'arrive tout de suite.
Non, je sais pas.
Eric.
Je sais pas.
Non mais je viens te voir tout de suite, Eric. Dans deux minutes, on continue le débat.
Et un après.
Qui peut remettre de l'ordre au Real Madrid ? L'avis d'Eric dans un instant.
RMC, le Super Moscato Show, la suite du débat.
17h18, qui peut remettre de l'ordre au Real Madrid ? Eric Dimeco.
Il y a le débat. Pourquoi tu rigoles ?
Non, c'est Jérôme qui fait
l'imbécile. C'est Jérôme Pinault qui.
Arrête de te foutre d'Eric aussi, quand même.
Toute la semaine,
il s'est foutu de ta tête.
Moi, j'adore Eric, il n'y a pas de souci.
Moi, je veux bien qu'il fait des réseaux, les 20 secondes et tout ça, mais le blanc, va falloir le calmer. Il va falloir aller voir la direction.
Allez, on y va.
Donc, il y a gérer la situation actuelle. À la limite, ils ont la chance, c'est qu'ils ont le derby et le classico ce week-end. Donc, normalement, tout le monde, avec la haine qui est entre les deux clubs, sera focalisé sur l'objectif et du coup le coach ça va être un peu moins galère là. Ensuite moi pour la bagarre, moi je pense qu'ils ont eu peur les deux après Tchouaméni quand il a vu l'autre partir à l'hôpital et l'autre quand il est parti à l'hôpital, enfin des bagarres on en a connu, c'est pas parce que tu t'es battu une fois parce que tu es chaud, la saison se passe mal, il y a des tensions et tout que tu peux plus jouer avec un mec quand même, sinon il y a des saisons où tu joues avec plus personne quoi, tu vois, tellement c'est que tu te chauffes avec les mecs à l'entraînement. Donc moi je vois pas pourquoi ils seraient irréconciliables. Alors après, ils peuvent être irréconciliables. Ça, c'est le coach et les dirigeants qui vont le savoir et qui vont s'en inquiéter. Mais je vois pas deux joueurs se bastonner à l'entraînement, se haïr au point de plus pouvoir jouer ensemble. Si c'est le cas, et c'est très rare dans l'histoire, il y en a un qui partira. Voilà. Et celui qui partira, c'est soit celui qui est le plus bankable, soit celui qui est le moins important pour le collectif. Hein. Et comme le disait Edgar, Valverde, c'est quand même un jeune joueur qui est impressionnant, qui est vice-capitaine ou troisième capitaine, je ne sais pas combien il est. Rappelez-vous le match qu'il fait contre, contre City. Vice-capitaine. Hein. Rappelez-vous le match qu'il fait contre City. Hein. C'est City au match aller, le match qu'il fait. Bon, c'est un joueur de très haut niveau. Mais moi, je ne vois pas pourquoi les deux seraient irréconciliables. Ensuite.
Alors, la sanction est tombée, hein, messieurs, à l'instant. Ah. Si ça vous intéresse, 500 000 euros d'amende pour chaque joueur.
Je me bats plus tout le monde, je te le dis. Hein.
Il n'y a plus de bagarre après 500 000 euros.
C'est une belle maison.
C'est, c'est à la hauteur des salaires. Hein. Ouais, mais, et, après, après, quoi qu'il arrive, cette équipe-là, elle doit être reconstruite. Voilà, trop faible défensivement. Il va falloir ramener de la qualité parce que sinon, ils vont se bastonner tous les ans. Et puis moi, je pensais vraiment que Xabi Alonso, c'était le bon choix. Parce que dans les anciens. Les anciens, Ancelotti, il est déjà passé, il est parti dans une autre histoire. Mourinho, comme le disait Vincent, c'est fini, il faut s'arrêter. Guardiola, il viendra jamais au Real. Il y a Klopp qui est sur le marché, qui est encore dans les grands entraîneurs. Bon, Luis Enrique non plus, c'est fini. Ils sont, voilà. Donc, moi, je pensais, que Xabi Alonso, c'était le bon choix par rapport à sa carrière de joueur, par rapport à sa carrière d'entraîneur. Sauf que d'après moi, il est arrivé au mauvais endroit. Mauvais moment. Parce que ce club-là, cette année, il est ingérable, j'ai l'impression. Et alors, en plus, j'ai l'impression que les dirigeants ne sont pas trop là pour aider le coach, quoi, dans ce club-là. Donc, il y a le bon choix d'entraîneur à faire l'année prochaine. Un pari sur un jeune, pourquoi pas, mais c'est compliqué. Vincent, tu disais Compagnie. Moi, je ne suis pas sûr que Compagnie, s'il puisse faire au Real ce qu'il a fait au Bayern. Hein. L'institution est.
Un exemple. Il faut bien avoir des mecs que tu peux lancer quand un an, deux ans,
tu prends Xabi Alonso avec son histoire et ce qu'il avait fait les deux dernières saisons. Mais c'était une super idée.
Sauf
que je pense que là c'était une saison compliquée pour eux. Il va falloir qu'ils s'améliorent surtout.
Attention sur l'histoire de l'effectif, que souligne Eric et Edgar, à savoir est-ce que les mecs peuvent continuer ensemble ou pas. Il serait reproché à Valverde d'avoir torpillé Xabi Alonso et comme il avait des joueurs qui le soutenaient, ça passerait plus entre les clans, c'est ça ?
Ouais, c'est politique.
Oui, alors en fait, la bagarre qu'il y a eu, c'est vraiment la fin de mois de tension, et notamment entre ces deux joueurs-là, parce que à l'époque de Xabi Alonso, t'avais Valverde et Vinicius d'ailleurs, mais en tout cas, t'avais plusieurs joueurs qui ne voulaient pas de Xabi Alonso, et t'avais d'autres joueurs qui soutenaient le coach à 100%, fou, dont Bruno Tchouaméni et Kylian Mbappé d'ailleurs aussi. Et donc en fait, depuis ce moment-là, il y avait déjà une petite division dans le groupe, et c'est pas la seule d'ailleurs. Hein. Il y a plusieurs divisions pour différents sujets différents. Il y a vraiment des tensions qui ils sont là sur tous les niveaux depuis des mois et des mois.
Le vestiaire est verrouillé.
Plusieurs sujets, tout ça.
Eric, tu disais après une bagarre, effectivement, ça arrive et tous les jours. Mais là, je crois que ce qui a fait en plus empirer les choses, c'est qu'ils se sont mis sur la tronche la veille. Et que le lendemain, tu te tapes dans la main, tu t'expliques, c'est fini entre hommes. Tu vois. Et le lendemain, c'est reparti. Le couvert. Oui, et là, quand tu dis que ça remet le couvert dès le lendemain, c'est que.
Ça fait deux fois.
Non, mais moi, c'est 5000 balles, j'y reviens. Tchouaméni a voulu lui serrer la main, a priori, et Valverde n'a pas voulu lui serrer la main avant l'entraînement.
Alors, 32-16. C'est profond, quoi. Hugo nous appelle, supporter du Real Madrid. Salut, Hugo.
Salut, Hugo. Oui, bonjour à tous.
Comment ça va, Hugo?
Bah, ça va bof, hein.
Ouais, bah, c'est pas terrible.
Avec ces histoires de gamins, là.
Comment ça peut aller mieux?
En virant tout le monde. Non, je déconne. Mais c'est vrai qu'en 2015, ça se serait jamais passé comme ça. Et puis là, bah, je vous entendais parler effectivement du successeur d'Arbeloa. Il est grand temps puisque en lisant la presse espagnole, j'ai même vu que certains joueurs se moquaient un peu de lui et l'appelaient le plot. Comme Piqué, en fait, se moquait de lui en sélection à l'époque. Donc là, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Et pour l'institution qu'est le Real Madrid, il faut mettre effectivement quelqu'un comme Mourinho. Après, a été évoqué aussi le nom de Didier Deschamps.
Il est free.
Je trouvais pas ça trop déconnant, moi, Deschamps.
T'aimes bien Deschamps, c'est bien. Ouais. Et Edgar, le journal AS a même sorti que ils auraient sondé Zidane au mois de décembre quand ça se passait mal avec Xabi Alonso. Ils en sont là, en fait. C'est ça qui est fou.
Ouais, alors le nom de
Zizou,
mais le nom de Zidane, il revient tout le temps parce que effectivement, c'est de très bons souvenirs. Mais il y a quelque chose qui est très important temps et qui joue en la défaveur de Didier Deschamps, et surtout dans ce contexte-là, c'est que en Espagne et particulièrement à Madrid, ils ont du mal à faire confiance à quelqu'un de nouveau, et ils aiment bien les gens qui connaissent déjà la maison. C'est pour ça que Xabi Alonso avait été pris, par exemple. Et en fait, tu regardes tous leurs derniers entraîneurs, à chaque fois, ce sont des gens qui connaissent un petit peu la maison. Et José Mourinho, surtout dans ce contexte-là, a cet avantage par rapport à Didier.
Pour voir la carte, quoi.
Est-ce que y a pas un problème de gouvernance dans ce club, parce que
malgré
tout le respect qu'on peut avoir pour le grand patron
Florentino Pérez,
à un moment donné tu es peut-être je sais pas, il est peut-être toujours dans le business, parce que quand tu regardes l'effectif du Real cette année, on en avait parlé cette saison, derrière c'est indigne du Real, derrière les joueurs que tu as, les défenseurs que tu as, tu peux même pas rivaliser avec le Barça en Liga. Donc il faut peut-être reconstruire une équipe, et peut-être que d'acheter des mecs à coût de 100-200 millions pour mettre devant, il faut peut-être faire ce qu'a fait le PSG, mais là-bas tu peux pas le faire, mais peut-être faire un truc un peu plus équilibré avec un vrai collectif fort, et ce sera plus facile pour l'entraîneur, et les mecs se mettront pas sur la gueule. Et est-ce que le président est encore la flamme, ou encore
après le président il a pas toujours tenu son club de main de maître, hein, parce que des périodes comme celle qu'on vit actuellement, il y en a eu. Alors ça faisait longtemps, mais c'est Florentino Pérez, c'est un mec qui vit à la star, c'est l'histoire et la culture du Real, et parfois ça se passe pas bien. Donc
il y a eu de longues périodes où il y avait aligné des noms et ça marchait pas, et d'autres fois peut-être un peu moins.
Souvenez-vous Gareth Bale qui avait une attitude bizarre.
Et Pérez avait démissionné le passé. En 2006, il avait démissionné.
Et
c'est
et
pas quelque chose à écarter à 100%.
La nomination du futur entraîneur peut aussi donner une espèce de tendance à ce que ça va faire l'an prochain. Parce que si tu vas chercher Mourinho, t'es dans la continuité, c'est pas un mec qui va t'imposer quoi que ce soit. Peut-être que la difficulté pour Pérez de convaincre un technicien. On a parlé, Eric parlait du Jürgen Klopp. Il va venir avec ses idées. Il va venir avec une idée de jeu et une idée de recrutement. Et est-ce qu'ils sont en phase avec ce que fait Pérez depuis des années, c'est aligner les stars, et on verra bien.
Pas sûr.
Merci à Hugo, et merci bien sûr à Edgar Rollo, correspondant à Madrid. Dimanche, il y a un temps fort quand même de ce week-end en Espagne avec ce Barça-Real. C'est coup d'envoi 21h. Merci Edgar. Dans un instant, on part sur le Giro avec une victoire française pour la première étape, mais on va débattre du défi de Vingegaard qui peut entrer dans un cercle de coureurs qui ont remporté les trois grands tours.
17h27, le Super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 17h32, on est dans le Super Moscato Show avec Eric Dimeco. Avec Jérôme, bien entendu, qui est avec nous. On va parler Jérôme de Pinot. Pinot, bien sûr. Mais pas Thibaut, Pinot. Adrien, Gouet, Pirot, Dorian, Popsi, Pirot, dans ces quarts d'heure. Le Kikadouille.
Le Kikadi vous offre un très beau cadeau. C'est une semaine de vacances en pension complète dans un club Milléade pour 4 personnes.
Ah oui, ça, c'est attention.
Deux adultes et deux enfants. Maria, pas où aller en vacances. 14 ans. Kikadi par SMS au 732-16. On va sur le Giro.
RMC. Le cri de gueule du Super Moscato Show.
Pourquoi un cri de gueule sur le Giro? On va vous expliquer tout ça. Le temps d'accueil, Maria Azé. Salut Maria.
Salut tout le monde.
Fait, Maria.
Et le temps d'un petit cocorico, puisqu'on a quand même une victoire française là, pour cette première étape.
Victoire de Paul Magnier, le sprinter. Pas Paul Sexas, les Paul marchent bien en ce moment. Victoire de
Paul en ce moment.
C'est ça. Victoire de Paul Magnier, le sprinter français, devant Jonathan Milan quand même. Première victoire en grand tour pour Paul Magnier.
Après une grosse chute
dans le final,
le sprint d'arrivée. Alors, Jonas Vingegaard est le grand favori, et dans 3 semaines, s'il conclut, il rejoindra Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Chris Froome comme vainqueur des 3 grands tours. Est-ce qu'il fait ça uniquement pour la gloire, Vingegaard, Maria?
Oui, mais clairement, il l'assume. Je veux écrire l'histoire, il disait à la, Il est confié à la Gazzetta dello Sport avant le départ. Donc oui, il fait ça pour cocher la case. J'ai remporté les trois grands tours de ma carrière et rentré au club des sept qui l'ont fait. En plus, petit clin d'œil, s'il gagne ce Giro, il l'aura fait avant Tadej Pogacar qui a gagné le Giro en 2024, mais pas encore la Vuelta. Et on sait à quel point c'est difficile de faire mieux que le Slovène sur certains domaines en ce moment. Comme en 2024, c'est un peu un Giro sans saveur hein, qui part en Bulgarie, qui est parti, qui a eu la première étape aujourd'hui. Alors même s'il y a eu cette belle victoire de Paul Bagnaia, mais pas de Pogacar, pas d'Evenepoel, pas de Paul Sexas, même pas un Joao Almeida ou un Isaac Del Toro pour donner un peu de concurrence aux Danois. Chez UAE, son plus gros adversaire, ce sera Adam Yates, Giulio Pellizzari pour Red Bull, Félix Gall chez Decathlon, Egan Bernal chez Ineos. Bref, pas trop de quoi inquiéter Jonas Vingegaard, le double vainqueur du Tour de France qui a écrasé ses adversaires depuis le début de saison, d'abord sur Paris-Nice puis sur le Tour de Catalogne. Le gros objectif de Vingegaard restera quand même le Tour de France. Ils ne sont que 7 coureurs dans l'histoire à avoir fait le doublé Giro Tour la même année. Lui considère que le Giro sera une bonne préparation pour venir concurrencer Pogacar et Sexas sur le Tour de France. Reste à savoir si sa volonté de marquer l'histoire va pas trop compromettre ses chances de gagner le Tour de France.
Alors, est-ce que tu trouves ça réellement prestigieux de gagner les trois grands tours quand tu vois les conditions dans lesquelles il va peut-être gagner le Giro? C'est ça la question, c'est ça le cri de gueule.
Peu importe, tu gagnes les trois grands tours, c'est quelque chose pour moi qui me paraît tellement difficile, tellement épais, tellement copieux. Non, pour moi c'est les choses les plus belles qu'il peut y avoir. Il peut pas y avoir mieux de gagner trois tours. Tu te rends compte, Tour d'Espagne, Tour d'Italie, Tour de France. Le Tour de France c'est le summum, mais même les deux autres tours, c'est ce qu'il y a de plus sérieux dans le monde quand même. C'est sur quoi? Sur trois semaines les deux tours, trois semaines, ouais. Trois semaines, c'est
le performance sans péril, en triomphe sans gloire.
Sans péril, quand tu fais trois semaines de vélo dans un tour,
il y a du péril.
C'est quand il y a du péril, toujours. Quoi qu'il arrive, tu crois, même s'il y a des mecs qui sont pas engagés, une année, il y a un mec qui est pas engagé, une star qui est pas engagée. Quand tu gagnes 20 ans après, personne ne se souvient s'il y avait du péril ou pas du péril.
Mais en plus, on a cette mémoire moderne. Tu le dis, Pierrot, a triomphé avec peu d'adversaires autour, mais on cite Bernard Hinault, on cite Eddy Merckx.
On se rappelle plus que peut-être à côté, il y avait pas grand monde.
Soit ce sont d'ultra talents, et là pour le coup, on peut pas diminuer la performance que cela représente de gagner un grand tour. Bah, je pense pas que Bernard ou Eddy Merckx aient gagné devant des énormes cadors, champions. Voilà, et puis surtout, n'oublions pas que aujourd'hui ces garçons-là sont hors normes. Giulio Pellizzari, qui est l'un des favoris de ce prochain Giro pour le podium, c'est un super coureur. Et pour gagner trois semaines, c'est très facile. Ce que je vais dire est très bête. Il faut faire du vélo pendant trois semaines et qu'il t'arrive rien. Ouais. Et avoir une super forme pendant trois semaines.
Il faut monter des cols et
déjà ça, c'est pas donné à tout le monde.
Il faut avoir un bon coccyx. Hein.
Mais tu vois, moi, ça me fait pas rêver de me dire, s'il lui arrive rien, il va gagner le Giro. C'est juste.
Oui, mais
ça.
Il aura gagné trois grands tours. Eric. Il aura gagné les trois grands tours. Et Vingegaard, c'est quelqu'un dans le monde du cyclisme.
Non, mais après, on peut pas galvauder ce genre de compétition ancestrale et qui est quand même difficile. Après, la réalité, me semble-t-il, Jérôme, mais je pars sous ton contrôle. Mais même moi, je crois que je suis quand même un peu plus vieux que toi. Mais même moi, je me souviens pas. Mais il y a toujours eu un. Enfin, j'ai l'impression quand même que sur les adversités qu'il y avait à l'époque, il y avait un petit peu plus d'adversité sur les deux autres grands tours, me semble-t-il. Il y avait moins de choix
Les mecs faisaient
forts.
Plus de grandes courses.
Voilà. C'est-à-dire que il y avait un peu plus d'adversité qu'aujourd'hui. Donc c'est tout simplement, mais un peu. Alors je vais pas dire comme la Coupe Davis, mais après le fait qu'une compétition soit dure, c'est quand les mecs ils vont, hein, c'est tout, hein. Et quand les mecs jouent plus le jeu, la compétition, c'est voilà. La Coupe Davis, ils l'ont tué à force de plus y aller, les mecs. Donc, il faudrait pas que les cyclistes, à force de plus aller sur le Giro et la Vuelta, ils tuent ces compétitions-là. Alors,
regarde,
c'est toujours.
Regarde le parcours. Le parcours cette année était vraiment taillé pour Remco Evenepoel. Vraiment, il y a un contre-la-montre de 42 km, deux allers-retours de 20 bornes en plein milieu du Giro. Il y a de la haute montagne, certes, mais il y avait un parcours qui est fait pour Remco Evenepoel. Il n'y vient pas, tant pis pour lui. Je veux dire, à un moment donné, c'est un garçon qui doit aussi... On doit, je trouve, respecter encore plus. Jonas Vingegaard, il dit, c'est la meilleure préparation pour le Tour. Mais c'est d'abord et avant tout, rentrer dans l'histoire. Et chapeau, quoi. Il vient et il ne dit pas je veux battre le deuxième plus fort. Non, il va venir, il va avoir gagné normalement et un troisième grand tour. Et alors, il sera au palmarès.
Pogacar est venu gagner le Giro, c'est il y a deux ans, c'est ça?
Oui, 2024.
Il est probable qu'il aille faire la Vuelta peut-être cette année ou l'année prochaine ou dans deux ans. lui aussi pour avoir les trois marques, tu vois. C'est ça, moi, que je trouve un peu, c'est loin de moi, l'idée de dire que c'est facile ou quoi que ce soit.
Ça dépend de quel
t'as l'impression qu'il vient cocher une case. Il faut l'avoir fait, un peu comme Djoko avec les Jeux Olympiques. Ouais, mais si ils y vont en ayant l'assurance de gagner, moi, ça m'impressionne pas trop.
T'as jamais l'assurance de gagner, Pierrot. Parce que sur trois semaines de vélo, il peut t'arriver tellement de choses. Et puis, aujourd'hui, le seul qui est pas sûr de gagner le Giro, peut-être le moins sûr de gagner le Giro, c'est Vingegaard lui-même, hein. Regarde aujourd'hui l'arrivée, Paul Magnier le gagne, ils se sont boités, il y a 7 mecs, ça peut arriver.
Écoute-moi Pierrot, c'est comme les, pour moi c'est des victoires du Grand Chelem au tennis, on peut le comparer. Cette année il n'y aura pas Alcaraz, Alcaraz à Roland-Garros, personne ne dira dans 5 ans ouais mais le mec qui a gagné, il n'y avait pas Alcaraz.
Parce que c'est aussi difficile de gagner à Wimbledon qu'à Melbourne.
Donc une course pour moi
c'est pas le cas justement. Je regarde le palmarès de Merckx, il a gagné 5 fois le Giro. Ce qui veut dire qu'il y allait, en fait.
Oui, mais il y allait, mais tu sais qu'est-ce
qu'il y allait.
Tu vois, il y allait, lui.
Il y avait du monde en face.
Il y allait pour le gagner parce qu'il avait envie de le gagner, pas parce qu'il avait envie de faire une collection.
Ton problème, c'est que le mec, il va, il gagne, et puis il y a
plus. C'est ce que dit Pierrot. Ça, je trouve que ça dévalue un peu la compétition, je trouve.
Non, mais c'est, finalement, tu as pas tort, Pierrot, malgré tout. Ouais, ton raisonnement, t'as pas tort, je trouve.
non, mais c'est vrai. Si non, mais nous, tu dé... après, t'as raison. C'est vrai que.
En réalité, tu dévalues pas la compétition. Tu dis que les coureurs n'y allant pas, la dévaluent.
Oui.
Et du coup, ça devient.
C'est-à-dire que si la Vingegaard une course que tu vas gagner et qu'il y a Pogacar en face, bah là, oui, j'ai dit bravo, oui, c'est sûr.
C'est pour ça qu'il y va, Pierrot, t'as compris, hein.
Voilà. Le cyclisme est victime de la modernité, de la médiatisation et du Tour de France. Parce que le Tour de France a pris.
Le Tour de France a tout écrasé.
Tout écrasé. Point à la ligne. Regarde, rappelle-toi Armstrong et tout ça. Le mec ne faisait que le Tour de France.
Bien sûr.
Tu l'as jamais vu faire, même à la limite. On devrait remercier les mecs.
Oui, mais comme
Pogacar et tout, de faire Paris-Roubaix et tout ça. Parce que, il y en a d'autres qui s'embarrassent pas à faire ces courses. Et ça a redynamisé le cyclisme que ces mecs-là, ils aillent. Alors qu'ils n'y aillent pas, bien entendu, sur le Tour d'Italie ou tout ça. Bon, ça peut paraître gênant. Mais le Tour de France, pète tout en mérité.
Ouais, c'est pour ça que je pense, par exemple,
c'est prendre le au football.
Quand tu parles d'héritage, est-ce que la trace laissée par Pogacar, je trouve qu'on la mesurera plus au nombre de classiques gagnés qu'au nombre de grands tours hors Tour de France.
Au global.
C'est-à-dire qu'à la fin, s'il a pas la Vuelta, parce que finalement il est pas allé, franchement, ça changera rien du tout en vrai.
On attend tous plus qu'il gagne Paris-Roubaix aujourd'hui.
Bien sûr.
Pogacar. C'est là où il va marquer.
Les classiques sont plus importantes. J'ai l'impression que le Tour d'Italie,
parce que tout le monde y va.
À moins qu'il gagne les trois grands tours la même saison, ça c'est.
Tout le monde s'attend à peu près à que, parce que le jour où il aura gagné Paris-Roubaix, il fera la saison d'après le défi de faire les trois grands tours d'un
moment. Et là, on les suivra les trois grands tours. Et puis on en ira voir.
Parce que c'est la série qui va t'intéresser.
Envie de savoir s'il est capable de le faire.
C'est jamais vu, en fait.
Et là, ça a déjà été fait. Et puis il le battra.
Mais plus ça va aller, plus il y aura de la concurrence. Mais aujourd'hui, Vingegaard a tout à fait raison d'aller sur le Giro parce que demain, il y a Pogacar va aller sur le tour avec ses équipiers Del Toro. Il y a Sexas qui monte. Il est peut-être dans l'une des dernières années où il est sûr de gagner quand il s'aligne sur un grand tour où il n'y a pas ces deux-là.
Del Toro, j'ai vu un film Sicario avec Del Toro, je vous conseille.
C'est le même Del Toro, du coup.
Ah ouais, c'est pas le même, mais je me suis régalé.
C'est un bon acteur.
Guillermo ou Benicio?
Benicio.
Benicio.
Bon acteur, non, quand même.
Tu l'as vu, Sicario, Eric?
Oui,
ça envoie du pâté, mon pauvre, mes grands.
Ça veut dire que. Là, c'est le genre de film, c'est très intellectuel, on réfléchit beaucoup.
Non, mais c'est très beau, ça, c'est très beau. Non, mais l'autre, il se fait passer, on va te muter en France Culture. J'ai pas l'impression
qu'il y a ça lui plaît aussi.
Ça lui plaît, non, mais il dit, c'est un truc, oui, très intellectuel, je trouve.
Bon. Oui, au bout de deux minutes, il y a 500 morts.
Alors là, si vous voulez.
Et alors, les morts,
la montée de la mort. Une émission d'intellectuel, c'est Rotten sans flamme.
Là, on prend de la hauteur. Et vous inquiétez pas, on est là dans 18 minutes.
Avec des Manu Petit. Pardon.
Non, on dit on prend de la hauteur aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont pas là. On est avec Benoît Costil et Christophe Dugarry.
Deux poètes.
Vous n'avez pas tutoyé non plus, c'est pas Baudelaire et Victor Hugo.
De toute façon, on se parle pas pour Baudelaire ou Victor Hugo. Nous, on est juste les numéros 1 dans l'analyse du football et ça tombe bien. Pendant 2 heures, on va vous régaler. On va parler du Paris Saint-Germain. Luis Enrique vous bluffe-t-il encore? Ça sera la une de Rotten sans flamme à 18h. À 18h25, on va attaquer le Racing Club de Strasbourg accusé de rater sa saison. Et à 19h, on lance la avant-dernière journée de Ligue 1 à 2020. Ça t'intéresse pas ou pas?
C'est pas la grosse émission, c'est toi.
Ah si. Non, mais il est déjà en week-end. Même son émission ne l'intéresse pas. Donc
non, quand même, tu ne peux pas dire ça. Je me suis filé sur le vélo quand même. Jérôme, je me suis filé sur le vélo.
depuis là, ça mériterait 20 secondes dans le kick.
Ah ouais, mais toi, viens, 20 secondes. Pour moi, ça s'arrête ce soir.
Jérôme Rotten, Rotten sans flamme. 18h pile.
18h comme tous les jours, vous le savez. L'émission référence, elle est là. Elle arrive bientôt.
Un petit point au stick. Est-ce que tu penses que Vincent va gagner le Kikadi qui arrive là?
Bah, j'aurais aimé qu'il commence la semaine. Il l'a pas. La semaine prochaine, ça ira mieux.
Allez, à tout de suite.
T'as triché.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 17h47, le Super Moscato Show avec Jérôme Pilon, Eric Dimeco, Adrien Gouin. Puis on en revient, top jingle.
RMC, le Kikadi du Super Moscato Show.
Marina face à Nicolas. L'enjeu, c'est une semaine de vacances pour 4 personnes en pension complète dans un club Miléade. C'est Marina qui va choisir son équipe. On tire au sort le coéquipier d'Eric Dimeco, qui a le premier point.
Tu vas jouer avec Jérôme Pinault.
Voilà. Très bien, belle équipe.
Voilà. On a déjà joué ensemble cette semaine, elle n'a pas été très bonne.
Alors, Pierrot, Marina, tu joues avec
non,
Vincent.
Non, mais on a perdu sur une
concours. C'est exactement les circonstances.
Vous n'avez été. Pourquoi vous n'en
du gentil, c'est Armand du plan
J'aurais souhaité.
Ça a marqué la semaine.
De ta part, avec gentillesse, une forme d'excuse plutôt que de m'envoyer la boule noire.
Mais qui alors la mériterait? Alors on le refait.
Tu vois, quand même,
Vincent Moscato avec Pierre Dorian, Eric Dimeco avec Jérôme Pinault.
Moi,
je l'assume.
Là, c'est le frère de
Benoît. Je te
rappelle que j'ai gagné 3 fois.
Et salut à tous.
Marina. Bonjour Marina. Ton équipe, Marina.
Alors, je vais faire confiance à Vincent, il va bien finir la semaine.
Ouais,
Vincent
bien sûr.
Et Pierre. Allez, c'est voilà. Parti.
Allez, Marina, tu nous appelles de Marina.
J'y crois.
Mogio dans l'Hérault.
Ah oui,
c'est genre
Mogio.
Non, c'est Mogio, à côté de Montpellier, sur la côte, Mogio.
Ah oui.
Voilà, c'est ça.
C'est le pays de Réglisse. Tu te rappelles le groupe Réglisse?
Oh, mais de l'huile.
Mais de l'huile.
Ça, c'était bon. T'es un pas jamaïcain.
Tu chantes le
reggae. Tu viens, t'as pas rien. Quand tu le chantes en anglais.
Mais de l'huile.
Je dis que c'était une émission culturelle.
Eh ben voilà. Quand on voulait dire une émission culturelle. Tu vois, elle a les références.
Allez, tout le monde se calme.
Nos auditeurs ont la référence.
Tout le monde se calme et on écoute le monsieur Blond qui pose des questions.
Allez. C'est parti. Et on démarre avec un 20 secondes pour. Non, je rigole, c'est une blague.
Je me casse. Tu me fais 20 secondes et je vais mettre sur un week-end.
Ah ouais, d'accord.
Je vais voir qu'arrive en plus de dénoncer. J'ai dit,
dénonce-moi. Kikadi.
Fais des trucs sales.
Arrête, être en sélection, c'est ce qu'il y a de plus beau. Il n'y a rien au-dessus de ça. Revenir. Bon, j'en suis pas là. Parce que ce serait une opportunité
j'ai goût
pour ceux qui arrivent derrière moi. À mes yeux, c'est
Ah oui, je l'ai vu. Di Maria.
Bien sûr.
Qui flamme chez lui là-bas.
Dans l'équipe.
Oui,
il a 38 ans. Il est tellement beau avec Rosario Central qu'il y a tout un mouvement en Argentine pour qu'il revienne pour la Coupe du Monde avec l'Argentine.
Il
38 ans.
38. Il tord les jeunes, tous les jeunes. Il galope comme un lapin et tout.
C'était beau, ça durait moins
la Coupe du Monde.
Ouais, à son âge, 38 ans, mais t'as vu le physique qu'il a, il est tout fin, tout mince.
C'est grimpeur, lui, c'est grimpeur au vélo.
Il tient un discours bizarre, Vincent. Il dit oui, mais moi, j'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un d'autre.
Il se fait désirer, peut-être.
Tu crois?
Ah, mais s'il avait tourné.
Non, c'est vraiment.
Tu vois, dans sa tête.
Non, mais il a l'air sincère. Il a l'air sincère quand il dit ça.
Il est passé à autre chose.
Ouais. Tu tournes pas la page tant que tu joues.
Oui, mais
c'est pas possible.
Il est étonné qu'on parle de lui, en fait.
Ah ouais, non, mais toi, Vincent, tu voulais pas que Lloris y revienne et tu veux que Di Maria revienne. Alors, ça, c'est la meilleure.
Grisou.
Géométrie variable. Moi aussi, j'ai mes têtes. Voilà, tout simplement.
Allez, 2-0.
Qui a dit? Quand on a 19 ans et qu'on va sur le tour, c'est on a ça. L'impression que ce sont les vacances. Ce ne sont pas les vacances.
Pogacar.
Pinot.
Jean Pinot.
Pas les vacances.
Il prévient Sexas. Il dit fais gaffe, mon Pierrot.
Joli.
Jean-Labert. Alain-Philippe.
Qui peut dire ça?
Pogacar.
Bernard Hinault,
personne
ne l'avait dit.
Jérôme, sans déconner,
remettez-lui une boule noire.
N'hésite pas, vas-y, chevelu.
Jamais notre réalisateur.
Il est deux en face de moi, là, il se régale.
C'est le bazar, on se calme juste un petit peu. Parce que la boule noire, il faut la savourer,
ça
bien entendre.
Voilà.
Donc 2-1 pour l'équipe Eric, Jérôme et Nicolas.
Je déclenche une BFM TV. Très simple.
Je l'ai pas.
Tu l'as pas? Qui vient de sortir le roman qui s'appelle Les Heures Fragiles?
Alors on va les tenter tous.
L'année dernière,
Lévy, Musso.
C'est une dame.
Slimani.
Non, qui s'appelle Claire Ost.
Elle a vendu 1 million de livres il y a, en 2025.
Grimaldi. La famille Grimaldi.
Ouais. Et bon, là, c'est bon. Je sais pas qui.
Virginie Grimaldi.
C'est quoi son prénom?
Virginie Grimaldi, c'est une personne qui vend le plus de livres en France, comme Musso, comme Lévy. 1 million de livres l'année dernière de romans. Voilà, c'est la plus grande romancière française du moment.
Ok. Ouais,
je les ai tous.
Virginie Grimaldi.
Les millions, je les ai lus.
Question en un coup. Ah! On n'en a pas parlé, c'est un peu honteux. L'AS Saint-Etienne joue un match pour la montée en Ligue 1. C'est face à Amiens, samedi à 20h. Et s'il gagne, il monte en Ligue 1. Révisons notre AS Saint-Etienne.
Oh putain, je croyais que tu allais demander le nom de l'entraîneur, je l'avais.
Ouais, c'était Montagnier, mais c'était pas...
Oh, mais oui, mais...
Donc, juste, donnez-moi le meilleur buteur de l'histoire de l'AS Saint-Etienne.
Allez, on va tenter...
Éliminé.
Ah non, je vais dire Hervé Revelli.
Hervé Revelli, 211 buts. Bravo.
Bim.
Il est là sur Saint-Éric. Bravo, bravo, pas évident.
Bah non, mais c'est mon enfance quand même. Ouais.
Oui. J'avais pas le compte appelé.
3-2.
Mais des fois, on m'appelait Revelli, le petit Revelli.
Il y a 1 minute 30, on revient tout de suite.
La suite du Kikadi sur RMC, on va s'en souvenir toute notre vie.
RMC, tout de suite, la fin du Kikadi.
La fin du Kikadi, un point d'avance pour l'équipe d'Imeco Pino avec Nicolas, il y a 4 minutes 20 au chrono.
Il est là, en chair et en os, il reste
le
4 minutes. Frédéric Pouillet pour la charade du vendredi. Salut Fred.
Il est là, le bonheur, il est là.
Allez, on se
la charade.
Non, mais là, c'est le malheur. Là.
Prénom et nom. Mon premier est une sorte de proverbe. Sans mes deuxièmes, le Père Noël serait bien en galère. Les histoires de mon troisième sont classées X.
Voilà.
Attends, vas-y.
Mon premier est une sorte
Renaud,
de proverbe.
Le petit Maxime Renaud, là.
Maxime Renaud.
Merde.
Silence, Eric.
Mon premier est une sorte de proverbe, Maxime. Alors, sans mon deuxième, le Père Noël sera en galère, le Rennes.
Rennes.
Et les histoires de mon troisième sont classées X.
Alors, je connais mon Fred Parker.
Avait un point commun avec Stallone.
Pas envie de s'emmerder une seconde. Non, un truc facile, un nom simple, des indices simples.
Maxime Renaud, joueur de basket.
Allez, tu sors.
Non, mais sauf que moi, j'étais là, j'avais Dicton, moi. Donc, Dicton Renaud, je savais pas qui c'est. Parce que c'est le petit basketteur, mais je sais pas son prénom.
Maxime Renaud, il est fort lui, hein.
Oui, il est bien, pas il a fait une belle première saison.
Ouais, pas envie de bosser. Ouais,
donc, égalité 3-3. Pas envie de bosser.
J'ai vu un reportage sur lui, incroyable.
Ouais. Plus c'est un surdoué.
C'est fou, ici. Je sais pas quelle université.
Sur Fred ou sur Maxime Renaud.
Il reste 3 minutes et on est à égalité 3-3.
3-3.
Et vous bavardez trop, messieurs.
Et du coup, je déclenche une question auditeur. Question auditeur.
Nicolas et Marina.
Auditrice auditeur. Ce week-end, c'est le Grand Prix de France en MotoGP. Mais c'est dans quelle ville ?
Monaco.
Non.
Non, c'est le. Mais non.
Grand Prix de France.
Castellet.
Ah non, plus. C'est une des villes les plus connues en France pour son circuit. Hein.
Le Mans.
Qui a dit Le Mans ?
Eh oui. Moi, Nicolas.
Bravo Nicolas. Le Mans.
3.
D'ailleurs, il me semble qu'Éric Dimeco va commenter le Grand Prix sur RMC.
Ah, tu as bien fait parce que je serai avec notre Steve National dimanche pour son émission et on commentera le Grand Prix.
Tu deviens consultant MotoGP, Eric.
Bon, c'est incroyable. On regardera la télé.
C'est une reconnaissance sur le tard. Ça fait toujours plaisir.
Également,
ça fait
plaisir, oui. les grandes gueules du sport, Jean-Marc Guirino, toute la bande, la Dream
Team. En direct du Mans.
Délocalisé au Mans. Oui, ah. grande émission. Ouais, tu sais,
Jean-Marc Guirino,
t'as pas été invité. Ok, t'as pas été invité.
Il y a un point d'écart, un point d'avance pour Eric et Jérôme.
Question Kikadi. C'est sûr qu'à chaque fois, mon coach me demande de faire du service volé et moi, je suis pas trop d'accord.
Engapet. Ah non, c'est le meilleur serveur de.
Ça peut être. C'est pas Péchy-Péricard, non ?
Péchy-Péricard.
Parce qu'il a fait l'article là aujourd'hui.
Giovanni Péchy-Péricard, il a un nouveau coach très connu, Greg Rudetsky, qui lui demande de monter plus à la volée. Et lui, c'est pas naturel pour lui.
Péchy-Péricard,
Allez, ça part de là, Vincent.
Ça part de là,
Vincent.
Réellement, Tada.
Question en un coup, une nouvelle.
5-3.
Ah, intéressant. À midi aujourd'hui, quel Français était en tête du rallye du Portugal ?
Oh, c'est comment il s'appelle ?
Ogier éliminé.
L'autre, comment il s'appelle ?
Ogier était troisième ce midi. Ah, il va falloir vous habituer parce que il est
comment, bon. Comment il s'appelle ? Je l'ai sur le bout de la langue. C'est le deuxième Français pour. Oh, je sais plus.
Solberg.
Non, c'est le français, il a dit le français.
Katsuta. Je l'ai fourneau.
Ah, tu étais presque, Eric.
Fourneau.
Bah oui, mais il y a plusieurs réponses là. Non, je peux pas l'accorder.
Ouais,
non,
je peux pas l'accorder.
Ah merde.
Mais
attends,
c'est un peu pour nous. On n'est pas un M. On n'est pas un M ou un L.
J'ai dit fourneau.
Adrien, je Fourmont.
Je le connais en plus. Pourquoi j'ai dit fourneau?
BFM TV.
Comment ça fait?
Quel acteur américain vient d'acquérir la nationalité croate?
Ah, je l'ai vu hier, ça! Je l'ai vu hier! Laisse-moi aller!
Ah, j'ai plus les tustes!
Croate,
hein!
Malkovic!
Malkovic!
C'était il y a trois jours, ça! Je retrouve plus mes tustes! Tu me gonfles, Adrien!
Ah ouais, c'est comme ça, quoi! Il retrouve plus ses tustes, donc c'est de ta faute!
Mais oui, ça y est, je l'ai, tu vois, je l'ai là! Je l'ai retrouvé
deux fois, normalement, c'était pas pour nous, hein!
Non, c'est pas Hugo, là!
Ça fait 5-5, hein! C'est comme vous voulez, moi, mais je comprends pas!
Si, Fred me dit, sur la question en un coup sur
Fourmont,
Eric a tenté plusieurs solutions.
C'est 5-5 pour nous.
Comment?
Alors, 5-5. 5 partout, balle de match, me dit
voilà.
Fred.
Mais non. Mais bien sûr. Là, il y a 5-4.
Non, mais Eric, fais-toi respecter. Là.
Mais attends, mais quand même. Non, mais alors écoute-moi, on ne peut pas reprocher à Fred de ne pas mettre de suspense. Et quand il la met, de pleurer. Moi, je suis content qu'on fasse une balle de match.
C'est la fête de la semaine. Si Rodi Ogier n'a pas un point pour nous.
Non mais c'était pas.
Mais le problème c'est que c'est ma faute.
Quand tu réponds,
deux réponses.
On l'a fait maintenant. Voilà. Allez,
balle de match. 17h59. Dans une minute, c'est Rotten sans flamme.
Mais Malkovic, je l'avais.
On y va. L'UBB, 23e journée de Top 14. Là, match un peu chaud. C'est, il se déplace à l'Aviron bayonnais. Comment s'appelle l'entraîneur de Bayonne?
De Bayonne.
Travers.
Qui? Non, c'est comment il s'appelle? Dumoura, non?
Non.
Comment c'est? Putain, je l'ai pas.
Bayonne.
Ah, ça me gonfle.
Il était l'adjoint de Patate.
Patate.
Il a fait la suite de Patate. Je vous donne son.
Ah oui, c'est le Néo-Zélandais, le Fraser,
Eric Zimeco, Gérard Fraser. Il l'a eu.
Il a eu, et le Pinocchio l'a eu aussi. Voilà. Ah là, le gros Pinocchio.
Qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup mieux interprété que d'habitude.
Le Kikadi sur RMC avec Milléad, village club et hôtel. Que vous soyez plutôt mer, montagne ou campagne, Milléad a le séjour qui vous ressemble.
Allez, c'est l'heure de laisser la place à Jérôme Rotten et François Pinet pour Rotten sans flamme, à lundi 15h.
Retrouvez tout de suite le Super Moscato Show en podcast
sur rmc.fr et l'appli RMC.